Moi, aujourd'hui, je voudrais revenir sur donc la question du droit au séjour à propos d'une population très particulière et spécifique, puisqu'elle concerne à peu près 1500 à 2000 individus, droit au séjour des imams en France. Alors, ça n'aura échappé à personne que malgré le caractère surprenant que cela peut avoir au regard de la laïcité française, depuis le début des années 90, les ministres de l'Intérieur successifs et leurs conseillers ont accordé une attention particulière au culte musulman et à son institutionnalisation, à sa structuration. Alors, cette intervention dans les affaires des musulmans de France, elle est régulièrement justifiée au nom de la nécessité de favoriser un islam de France, expression derrière laquelle se cachent généralement deux projets distincts. Le premier, ouvertement revendiqué, qui consiste finalement à garantir une forme d'égalité en améliorant les conditions d'exercice du culte musulman, et un deuxième, moins médiatisé, parce que sans doute aussi moins assumé, qui consiste finalement à assurer l'encadrement d'une religion qui, dans un contexte géopolitique marqué par le développement de l'islam politique oppositionnel, tend à inquiéter de plus en plus les autorités françaises. Alors, dans ce contexte, si je me suis particulièrement intéressée, moi, aux imams, c'est qu'à tort ou à raison, les imams apparaissent comme un acteur en capacité d'influencer la morphologie de la religion islamique en France, et qu'à ce titre, tous les ministres de l'Intérieur successifs, quelles que soient d'ailleurs les alternances, se sont retrouvés tentés d'influer le profil de ces ministres du culte, c'est-à-dire de pouvoir avoir d'une manière ou d'une autre leur mot à dire sur qui pouvait légitimement occuper ce rôle religieux en France. Alors, cependant, effectivement, cette tentation, cette volonté d'influer le profil des imams, elle rentre en contradiction flagrante avec le principe juridique de la laïcité, hein, qui, comme vous le savez peut-être depuis 1905, part du principe que ce sont les communautés religieuses et uniquement les communautés religieuses qui sont en capacité de désigner leurs ministres du culte et que l'État français, enfin ses agents en tout cas, n'ont plus à interférer ni dans la nomination ni dans la sélection de ces derniers. De ce fait, ça a amené les agents de l'Intérieur à un certain nombre de contorsions, pour reprendre l'expression d'un conseiller de Jean-Pierre Chevènement, et c'est sur une de ces contorsions donc, que je vais revenir, qui est finalement la tentation, dans un pays où 80% des ministres du culte musulmans ne possèdent pas la nationalité française, eh bien, d'instrumentaliser le droit au séjour des étrangers pour tenter d'influer sur leur profil, de les sélectionner finalement de manière indirecte. Alors, pour cela, je vais finalement revenir sur une procédure administrative, essayer de vous expliquer la mise en place et le fonctionnement d'une procédure administrative qui est très peu connue, qui est mise en place le 21 novembre 1990 suite à l'envoi d'un télégramme confidentiel à l'ensemble des préfets de France, télégramme qui est envoyé par la sous-direction des étrangers, et qui finalement demande donc à toutes les préfectures de France de faire remonter au niveau du ministère de l'Intérieur toutes les demandes d'étrangers, je cite le texte, exerçant à titre principal ou secondaire les fonctions d'imam dans les lieux de culte musulmans de vos départements. Alors ce télégramme, il est intéressant parce qu'il remet en cause le pouvoir dérogatoire des préfets de décider qui peut être régularisé ou non dans son territoire administratif. Il n'est pourtant pas surprenant. Au regard des pratiques administratives relatives à la gestion des étrangers, puisque, pour reprendre une expression d'Alexis Speer, il s'inscrit finalement dans le prolongement d'une tradition de traitement à la carte des étrangers qui consiste finalement, via l'instauration de circulaires, à soumettre les étrangers à un droit changeant et modulable, voire même à une forme d'infradroit. Alors, dans le but d'analyser finalement cette procédure avec vous. D'abord, je vous propose de vous expliquer du coup concrètement qu'est-ce que va sous-entendre cette remontée de tous les dossiers d'imams demandant à être régularisés sur le territoire français et au travers justement en étudiant tous les services qui sont consultés dans le cadre de cette enquête administrative, d'essayer de vous montrer que bien les catégories d'entendement mobilisées par ces services ne sont pas nécessairement les mêmes, c'est-à-dire que le bon, par exemple, le bon imam des renseignements généraux n'est pas nécessairement le bon imam d'un conseiller, d'un ministre de l'Intérieur, d'essayer de revenir sur ces catégories d'entendement et de montrer qu'elles ne sont pas de même nature, qu'elles n'ont pas nécessairement le même poids dans le processus final de décision. Alors, juste avant de commencer, d'un point de vue méthodologique, je m'appuie donc sur, pour parler de tout ça, donc sur une analyse prosopographique que j'ai réalisée de 300 dossiers de demandes d'imams, donc qui entre 1990 et 1997 ont demandé à être régularisés sur les archives de trois cabinets de l'intérieur, celui de Jox, de Chevènement et de Jean-Louis Debré, ainsi que sur une série d'entretiens menés avec les fonctionnaires qui étaient amenés à participer à cette procédure administrative. Alors, à partir du télégramme du 21 novembre 1990, les demandes en fait de carte de séjour donc émises par les ministres du culte musulman vont remonter le long d'une chaîne administrative standardisée qui commence d'abord par les préfets qui réceptionnent via le service des étrangers la demande de titre de séjour. Ils commandent ensuite aux renseignements locaux de leur région une enquête qui porte à la fois sur l'imam mais aussi sur l'association qui gère la mosquée où il officie. Le rapport DRG, accompagné d'une lettre du préfet, remonte ensuite à la DLPJ, c'est-à-dire la Direction des libertés publiques et juridiques, qui contient la sous-direction des étrangers. La DLPJ, quand elle reçoit ce dossier, le fait suivre au bureau central des cultes, qui est en France le service qui gère l'application de la laïcité. Et le dossier, donc, comprenant une fois l'avis de la DLPJ, du Bureau central des cultes, des renseignements généraux et de la préfecture, remonte au cabinet pour un avis politique de la décision à donner. Donc, je vais commencer par vous présenter les services qui ont un avis consultatif, c'est-à-dire les renseignements généraux, le préfet et le Bureau central des cultes, pour ensuite terminer sur les deux services qui ont un véritable pouvoir de décision, qui sont la DLPJ et le cabinet du ministre de l'Intérieur. Alors, s'agissant des renseignements généraux, quand on voit donc les enquêtes, les PV d'enquête qui sont menées pour les imams demandeurs d'un titre de séjour, on voit très clairement que leur catégorie d'entendement, c'est une logique sécuritaire, c'est-à-dire que le but des renseignements généraux, c'est d'identifier, de ne pas accorder de titre de séjour à des imams qui seraient partisans d'un islam politique oppositionnel, ce qui les amène statistiquement à classer les imams en deux catégories, les intégristes, qui sont soupçonnés bien souvent d'ailleurs plus que, parce que souvent on n'a pas de preuves avérées, d'être membres de partis proches de l'islam politique oppositionnel, dont certains ne vous seront pas inconnus, le Front islamique du salut, le mouvement de la tendance islamique, le mouvement de la Ennahda, etc., ou alors d'associations françaises considérées comme proches de ces mouvements-là, comme par exemple l'Union des organisations islamiques de France, et puis les imams modérés, c'est-à-dire tous ceux qui sont considérés comme n'ayant pas de contact avec ces organisations-là. Alors, ceci étant dit, ça n'est pas suffisant de ne pas être identifié comme un imam intégriste pour les renseignements généraux. Le deuxième facteur qui favorise un avis positif de la part des policiers, c'est aussi d'être identifié, si possible, comme étant proche de ce qu'on appelle l'islam consulaire, c'est-à-dire finalement d'entretenir des relations de proximité avec le consulat de son pays d'origine et d'officier dans une association qui, elle-même, entretient des liens de proximité avec le consulat de son pays d'origine. Ceci étant dit, encore une fois, donc, c'est sûr que si vous êtes considéré donc, comme non intégriste, proche des réseaux consulaires, vous avez de fortes chances d'obtenir un avis positif des renseignements généraux. Ceci étant dit, ça n'est pas non plus un sésame. Pour les policiers, on voit que statistiquement, ceux qui obtiennent un avis positif ont aussi tendance à être des hommes de plus de 40 ans, qui en général ont eu moins de 6 enfants et quand ils vivent en France avec leur famille, n'ont pas plus de 3 enfants sur le territoire français, qui ont un salaire minimum de 6 000 euros, et qui généralement habitent dans un logement privatif. Alors en sachant que le salaire moyen des imams étrangers en France avoisinait dans les 6 000 francs, excusez-moi, et que dans les années 90, le salaire moyen des imams étrangers en France avoisinait les 4 000 francs. Donc des gens qui sont bien au-dessus de ce salaire-là. Alors c'est intéressant parce qu'on voit déjà que à rebours des déclarations des ministres de l'Intérieur sur la nécessité d'avoir des imams français indépendants des pays d'origine, etc., on voit que l'imam qui rassure, dans une logique sécuritaire, les renseignements généraux, c'est exactement l'inverse du type d'imam qui est appelé de la part des ministres de l'Intérieur. Alors, s'agissant, donc ensuite le dossier remonte aux préfets. Donc, si on s'intéresse un peu aux catégories d'entendement des préfets, elles sont beaucoup plus difficiles à analyser parce que comme on leur a justement enlevé le droit de statuer sur quels immeubles peuvent être régularisés ou non, dans 50% des cas, ils ne donnent pas leur avis. On voit cependant qu'ils suivent massivement l'avis des renseignements généraux, à ceci près qu'ils sont sans doute plus attentifs aux conditions matérielles d'existence des imams, surtout quand il y a des demandes de rapprochement familial, notamment parce que souvent on considère que l'imamat serait une manière d'obtenir un titre de séjour temporaire en vue d'obtenir par la suite un titre de séjour de travail pour faire venir sa famille. S'agissant du bureau central des cultes maintenant, la logique d'entendement, c'est favoriser des imams intégrés. Hein, c'est-à-dire qu'ils entretenant une certaine proximité avec le discours des ministres de l'Intérieur, les chefs du bureau central des cultes, qui se succèdent dans les années 90, vont être très attentifs, par exemple, à la capacité des imams à parler français, à un certain nombre d'indicateurs qui permettraient de calculer leur niveau d'intégration au sein de la société française. Donc, est-ce qu'ils vivent en famille ou pas? Est-ce qu'ils habitent dans la mosquée ou est-ce qu'ils ont accès à un logement? Est-ce qu'ils entretiennent des contacts en dehors de la communauté musulmane avec des vrais Français? Tout ça, alors effectivement, on pourrait penser comme ça à prime abord que leurs critères ressemblent à ceux des renseignements généraux, notamment parce qu'ils sont aussi très opposés, bien évidemment, aux imams qui seraient soupçonnés d'entretenir des liens avec des mouvements issus de l'islam politique. Mais leur grille de lecture, elle n'est pas non plus strictement sécuritaire. Et on le voit, c'est-à-dire que ils émettent un avis négatif sur 70% des dossiers sur lesquels les renseignements généraux émettent un avis négatif. Par contre, ils ne vont valider les avis positifs que de 40% des RG. Donc on voit qu'ils n'ont pas tout à fait la même grille d'analyse. Et notamment parce qu'ils font très attention à la langue française, par exemple, qui est un critère qui n'intéresse absolument pas les renseignements généraux. Par ailleurs, on voit qu'ils vont aussi faire très attention au type de discours religieux qui serait prôné. C'est-à-dire que, par exemple, les imams Tabliri, donc c'est un mouvement piétiste très traditionnaliste, ces imams sont assez bien notés finalement par les renseignements généraux, parce qu'ils sont très fortement apolitiques et que par ailleurs, ils interviennent généralement dans des lieux de culte complètement soumis au consulat marocain, ce qui fait qu'on se dit que ce n'est pas des gens dangereux qui vont prôner un islam politique. Donc les renseignements généraux les notent positivement. À l'inverse, on a des discours très très durs de la part du bureau central des cultes, hein, qui dit que ce sont des gens qui ont des discours moyenâgeux, avec des valeurs contraires aux valeurs françaises, et qui donc seraient de nature à freiner, là je les cite, l'intégration des musulmans en France. Alors, une fois que tous ces avis consultatifs ont été posés, c'est donc la DLPAJ qui reçoit le dossier, hein, donc la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, avec un bouleversement de la hiérarchie habituelle, puisque c'est ici directement le directeur de la DLPAJ et non pas les chefs de bureau qui statuent sur les dossiers. J'espère que je ne suis pas trop... D'accord, je me dépêche. Alors, s'agissant du directeur de la DLPAJ, sa fonction, c'est essentiellement d'incarner une logique juridique et législative et notamment de rappeler au cabinet qu'est-ce que légalement le cabinet peut prendre comme type de décision, en sachant qu'effectivement, le directeur de la DLPAJ ne prend jamais la décision seul. Cette décision se prend toujours dans le cadre d'un dialogue avec le cabinet du ministre de l'Intérieur. Alors, ce point de vue légaliste de la DLPAJ, il va être entendu dans certains cas par le cabinet, notamment lorsque ils vont venir souligner le caractère fragile d'un point de vue juridique d'une procédure d'expulsion en disant « attention, là, au regard de la liberté d'expression, vous êtes un petit peu limite, donc un tribunal administratif pourrait casser la décision ». Donc, dans ces cas-là, ils vont dire, par exemple, par contre, la personne ne remplit pas les conditions d'existence matérielle, donc au lieu de mettre en avant le caractère politique de ses prêches, justifier la reconduite, le non-renouvellement du titre de séjour, plutôt au niveau de ces conditions d'existence matérielle. Donc on voit, et dans ces cas-là, le discours de la DLPAJ est assez audible parce que c'est la crédibilité du ministère de l'Intérieur qui est en jeu. Par contre, quand le point de vue légaliste vise à rappeler que le cabinet tend à dénier aux imams des droits qu'ils ont acquis, elle est beaucoup moins audible. Par exemple, il faut savoir que le cabinet du ministre de l'Intérieur, depuis 10 ans, temps à essayer de maintenir les imams dans des titres de séjour temporaires visiteurs, donc c'est-à-dire qui ne donnent pas droit à travailler, en tout cas avoir un contrat de travail, sauf qu'on a des imams qui ont des renouvellements de titres de séjour depuis 3, 4, 5 ans et qui, du coup, normalement, légalement, ont le droit d'obtenir une carte de séjour de 10 ans et qui ne leur est jamais donnée, voire refusée. Et donc là, dans ces situations, le directeur de la DLPAJ a beaucoup plus de mal à se faire entendre sur le côté non légal des décisions qui sont prises. Le cabinet, pour finir, alors lui, sa logique d'entendement, c'est ce que moi j'avais appelé une forme de pragmatisme politique, au sens où finalement, les conseillers des ministères vont avoir tendance à écouter, à récupérer tous les modes de légitimation qui circulent, hein, donc le mode de légitimation sécuritaire, légaliste, intégrationniste, ou qui sont développés par les autres services, et finalement à s'en saisir en fonction des opportunités politiques qu'elles offrent. Mais fondamentalement, les décisions que prend le cabinet, elles sont avant tout en fonction de l'agenda politique, de l'intérêt politique. Par exemple, je me souviens du cas d'un dossier d'un imam où tout le monde s'accordait à dire qu'il fallait expulser cet imam, il n'avait pas les moyens nécessaires de vivre en France, il était identifié comme étant un proche du Front islamique du salut, etc. Mais il était marocain son expulsion serait tombée au moment de la visite d'Hassan II. Et donc on avait une note d'un cabinet du ministre qui disait « il est hors de question qu'on expulse un imam marocain en plein voyage diplomatique d'Hassan II, ça n'est pas possible ». Et donc la personne se voyait renouvelée pour un an supplémentaire avec l'idée qu'on traiterait son cas dans un an si le contexte était plus favorable. À l'inverse, par exemple, il peut aussi arriver que des arguments qui ne soient jamais pris en compte par le ministère de l'Intérieur, par les membres du cabinet, soient montés en épingle à des moments où ça s'y prête bien. Par exemple, les avis du BCC sur l'idée que tel imam ne parlerait pas français, que donc il ne faut pas le renouveler, sont généralement peu écoutés, sauf en période de crise avec la Grande Mosquée de Paris, parce que les imams de la Grande Mosquée de Paris sont généralement des imams arabophones, et que donc il peut y avoir un intérêt pour faire plier le recteur de la Grande Mosquée de Paris à menacer d'expulsion ou de non-renouvellement de titre de séjour ces imams qui ne parlent pas français. Voilà un petit peu pour ces logiques-là. Alors, ce qui est intéressant, je vais conclure là-dessus si j'ai le temps, c'est qu'on voit que ces logiques, elles sont très très différentes, hein, d'un service à un autre. On voit qu'elles n'ont pas nécessairement le même poids et que la manière dont fonctionne le cabinet de l'Intérieur, cette nécessité dans une forme de pragmatisme politique, fait que les décisions sont systématiquement prises au cas par cas, qu'il n'y a pas véritablement de doctrine administrative après 10 ans notamment de procédure qui s'est élaborée sur ce que serait un bon imam ou un mauvais imam en France au niveau du droit du séjour. Ceci étant dit, on voit que statistiquement, il y a quand même un profil type d'imam qui a plus de chances d'être régularisé que les autres. Et là, c'est assez intéressant puisque cet imam-là est généralement algérien ou turc, fonctionnaire du gouvernement algérien ou turc, envoyé en France en tant qu'imam expatrié pour des périodes pouvant aller de 2 à 4 ans dans le cas des Turcs, de 4 à 10 ans dans le cas des Algériens, c'est-à-dire typiquement l'exact inverse, encore une fois, de l'imam qui est appelé des vœux par le ministre des ministres successifs de l'Intérieur. Alors, du coup, est-ce que ça signifie qu'on serait dans une forme de rhétorique purement politique de la part des ministres de l'Intérieur quand on dit qu'on veut cet imam francophone, français, indépendant des pays d'origine, etc. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est surtout que le dossier des imams en France n'est qu'un dossier parmi d'autres dans la gestion du culte musulman en France, qu'il est considéré comme important et en même temps comme secondaire par rapport à la question de l'institutionnalisation de la mise en place d'une institution représentative du culte, et que donc, comme elle passe en second plan, eh bien, il faut conserver ce caractère pragmatique des décisions qui sont prises. Que deuxièmement, même si effectivement, sur le long terme, c'est un imam effectivement indépendant des pays d'origine, inséré dans la société française, etc., qui est appelé des vœux, dans les faits, de la logique effectivement sécuritaire qui est très prégnante, a tendance à encourager le maintien sur le territoire d'imams qui sont dépendants de leur pays d'origine, c'est-à-dire ce sont des imams qui sont plus facilement contrôlables, qui sont aussi plus facilement expulsables, sur lesquels on a des moyens de pression. Le fait qu'ils soient maintenus en carte de séjour visiteur, ça permet par ailleurs de ne pas leur délivrer de contrat de travail. Donc ça les met dans une double précarité. Précarité parce que tous les ans, il faut revenir à la préfecture, passer une enquête de policière pour obtenir son titre de séjour. Mais aussi précarité parce qu'on n'a pas de contrat de travail et qu'on est donc complètement dépendant du président de l'association qui peut du jour au lendemain décider de vous licencier. Et puis ça a aussi une utilité symbolique, c'est que à la fois policière et symbolique, c'est que cette procédure-là, elle permet de centraliser toutes les informations disponibles sur les imams étrangers en France, alors que normalement l'État n'est pas censé s'y intéresser. Donc on a une grande base de données où on peut obtenir comme ça tout un tas d'informations, informations qui sont disponibles et qui peuvent être mobilisées à chaque fois qu'un imam semble poser problème. Et puis par ailleurs, en les soumettant à ces procédures administratives, on les oblige à se soumettre à une forme d'ordre national. On rappelle que l'État est présent, qu'ils ont l'obligation de se soumettre au droit français, mais aussi aux valeurs de la société française, etc. Et donc ça participe à orienter les discours. Et on voit bien que d'ailleurs, notamment sur les discours des prêches, Rieber a très bien montré que cette surveillance qui accompagne des renseignements généraux qui s'accompagnent justement de ces procédures de demande de titre de séjour, sur 10 ans, elle a fortement infléchi le contenu des prêches des imams qui ont largement dépolitisé leur discours dans les mosquées. Je vous remercie.